On aura tout vu en direct du Salon Livre Paris et c'est pas une raison pour oublier les sorties, Laurent.
Mais non.
On va commencer par Convoi exceptionnel, le retour de Bertrand Blier après 9 ans d'absence depuis Le Bruit des glaçons. C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin, le premier étant par-dessus, le deuxième en guenille. Et les deux sont en possession d'un scénario effrayant. Le scénario de leur vie et de leur mort. Alors, ce retour de Blier, Laurent.
On peut se demander où est donc passé le Blier de Buffet froid et de Trop belle pour toi. Par exemple, des autocitations permanentes dans son nouveau film ne suffisent certainement pas à ranimer la flamme, pas plus que la présence, certes réjouissante par ailleurs, de Depardieu face à Clavier, mais ils sont tous les deux en roue libre. Ça ne suffit pas là non plus à ranimer la flamme de Blier. On reste devant un film paresseux, poussif, et qu'on regarde tristement.
Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu sur leur vie respective. Le film le plus maîtrisé de Dolan, peut-on lire sur l'affiche, comme une qualité. Or, nous, ce qu'on aime chez Dolan, c'est l'instinctif, le spontané, l'inattendu, et même l'amateurisme inspiré, bref, la jeunesse, qu'il perd ici pour un film plus structuré, encombré d'aller-retour scénaristique surligné qu'il tente de faire tenir ensemble en y ajoutant, en plus de ses rapports tumultueux mère-fils, un autre sujet, intéressant d'ailleurs, Hollywood, ses mécanismes et ses mensonges, c'est beaucoup pour un seul titre, un seul film, c'est même trop, on se croirait parfois chez Lelouch dans sa sentimentalité, mais on a un petit peu perdu Dolan en route, on a perdu son absolue nécessité de filmer, enfin moi je trouve.
Je vous rejoins, c'est son premier film américain, c'est son anniversaire de 10 ans de cinéma, lui il en est à sa 30e année, c'est un film bilan, mais hélas on s'en fiche un peu de son bilan, parce que ça ne fait que ressasser son passé cinématographique avec tous les sujets que vous avez évoqués et qu'il a déjà très très bien, beaucoup mieux traité dans ses films précédents. Bref, on aurait pu se passer de ce bilan-là.
Mon bébé de Lisa Azuelo, c'est Louise et mère de 3 enfants, Jade, sa dernière, vient d'avoir 18 ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Ça, c'est le sujet du film, avec un atout maître à l'intérieur, Sandrine Kiberlin.
Certes, alors, je n'ai rien à raconter. C'est pas moi qui le dis, c'est Lisa Azuelo, ça l'a dit. Donc voilà, j'ai juste des petites choses à dire. Bon, alors, est-ce que ça fait un film? Non, parce que finalement, elle raconte sa propre vie. C'est sa propre fille qui joue la fille de Sandrine Kiberlin dans le film. Tout le film se passe quasiment avec des captations sur d'écran de téléphone portable. Donc on a l'impression d'être à l'intérieur du téléphone portable de Lisa Azuelo. Est-ce que c'est très intéressant, cette espèce de mère-copine assez énervante? Alors, de film en film, de 10 ans, il y a déjà eu le nom m'échappe, le film précédent sur sa fille LOL, voilà.
LOL.
Il y a 10 ans, LOL. Maintenant, merci, celui-là, public. Mon bébé, je vous fiche mon billet. Dans 10 ans, on aura Emmanuel DeVos avec le retour de la fille prodigue, et dans 20 ans, Karine Viard, l'art d'être grand-mère par Lisa Azuelo.
Rosie Davis de Paddy et Brusnack. Rosie Davis et son mari forment avec leurs 4 enfants une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi quotidien que les parents affrontent avec courage. Ou quand le cinéma ne peut même plus sublimer la réalité, ne peut même plus avoir recours à la moindre dramaturgie pour décrire cette misère, excepté ce suspense qui consiste chaque jour pour Rosie à téléphoner à tous les services sociaux, les hôtels, pour trouver une chambre pour la nuit et éviter à son mari et ses 4 enfants de dormir dans la voiture, le dernier réceptacle. Alors, oui, il y a du cinéma quand on invente une héroïne comme cette mère courageuse, énergique, infatigable, énergie du désespoir, dans un monde complètement désespérant. Ça s'appelle Rosie Davis. Lune de miel, c'est un premier film de Johanna Uricaru, produit notamment par Christian Mungiu. C'est l'histoire d'une jeune femme roumaine qui emménage aux États-Unis chez son nouveau mari, Laurent.
Oui, c'est assez drôle parce que c'est le cauchemar roumain bureaucratique tel qu'on l'a déjà vu traiter beaucoup de fois dans le cinéma roumain, et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance, beaucoup de jubilation. Et là, c'est transporté aux États-Unis et on se dit, les États-Unis, d'un point de vue bureaucratique, c'est égal à la Roumanie. C'est-à-dire que cette femme, pendant 24 heures, elle va vivre un véritable enfer pour essayer de faire partie des États-Unis et d'entrer dans un travail, dans la vie sociale, etc. Et cette façon de dupliquer en quelque sorte les problématiques roumaines aux États-Unis actuels, c'est plutôt réjouissant et c'est très très bien mis en scène et impeccablement joué.
On va terminer avec Terete, ça veut dire la charge, première fiction du réalisateur serbe Ognjen Glavonic. 1999, alors que la Serbie est bombardée par l'OTAN, Vlada travaille comme chauffeur de poids lourd dans son camion. Il transporte un mystérieux chargement du Kosovo jusqu'à Belgrade et traverse un territoire marqué par la guerre. Lorsque sa tâche sera terminée, il devra rentrer chez lui et vivre les conséquences de ses actes. Un homme et son camion, un road movie métaphorique pour raconter un épisode terrible, celui des massacres perpétrés par l'armée serbe. Glavonic avait d'ailleurs déjà réalisé un doc sur les charniers oubliés de la guerre du Kosovo. Mais là, c'est le cinéma qui est grand quand il donc s'attaque à ce sujet aussi lourd, en le racontant comme un suspense doublé d'un huis clos étouffant et haletant.
C'est assurément pour moi le meilleur film de la semaine. C'est une sorte de vrai faux salaire de la peur sur le synopsis juste.
Et ça m'a inspiré d'ailleurs.
Et ça dit beaucoup de choses sur, par exemple, la culpabilité des Croates durant la guerre de 40. Le film dessine une sorte de géographie d'un pays cauchemardesque.
Ça s'appelle Terret.
Terret, allez le voir.
La disparition de Pierre Chevalier, ancien directeur de la fiction sur Arte de 91 à 2003, également producteur sur France Culture, de Sur les Docks, de nombreux films initiés sur la chaîne franco-allemande par Pierre Chevalier, 350, parmi lesquels Le Péril Jeune, Eddie Chatterley, Les Roseaux Sauvages ou Ressources Humaines. Sur le petit écran, certes, mais du grand cinéma, Pierre Chevalier, la foi dans les autres et une immense curiosité, Laurent.
Nous l'avions reçu à ce micro, souvenez-vous. Il était venu présenter un livre dont on ne peut que recommander la lecture, même après et surtout après sa mort. C'était avec Philippe Martin chez Séguier. C'est donc quelqu'un qui a fait juste travailler Téchiné, Mazuy, Assayas, Claire Denis, Clapiche, Guédiguian et beaucoup d'autres sur une idée initiale de Chantal Poupeau. Ils ont fait en sorte que la télévision puisse donner la liberté, l'oxygène et les financements à des cinéastes aussi formidables que ça. Salut et chapeau à Pierre Chevalier.
Oui. Deux festivals, Laurent, pour conclure avant les cadeaux pour nos invités.
Oui, vous irez d'abord à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, écouter et voir de la musique et du cinéma du 18 au 23 mars, avec notamment des compositeurs Trevor Jones et Patrick Dogle, et puis les concerts hommages Pierre Adnaud, Bruno Coulet et Raphaël Imbert, entre autres. Et puis à Paris, nous restons à Paris pour le cinéma du réel, extrêmement grande manifestation sur le film documentaire, depuis hier jusqu'au 24 mars, avec notamment des œuvres fabuleuse de Yolande Zoberman et Claire Simon.
Yolande Zoberman et son fantastique documentaire qui s'appelle oui. M, incroyable chose, et nous la recevrons la semaine prochaine, d'ailleurs avec Nadav Lapid. Maintenant, les cadeaux pour nos invités.
Quatre livres, évidemment, parce qu'ils ne lisent pas assez, donc nous les convions à lire un petit peu. Vincent Paul Boncour, pour vous, Tout Truffaut de Anne Gillin chez Armand Collin. 23 films pour comprendre l'homme et le cinéaste, c'est une très très belle somme sur l'univers truffaldien.
Attendez Laurent, c'est intéressant parce que c'est Truffaut qui disait il n'y a pas de vieux films, hein, Vincent Paul Boncour. Parce que vous restaurez des films, mais il n'y a pas de vieux films.
Déjà, j'utilise jamais cette expression vieux film, comme il disait, surtout il n'y a pas de vieux livres, voilà. Il n'y a pas de vieilles peintures, il y a du cinéma et des œuvres.
Voilà. Truffaut.
Pour vous, Guy Astic, l'auteur Pierre Ski, qui est décédé, avait trouvé une constante dans beaucoup de films, c'est des gens qui chantent à tue-tête des chansons qu'on connaît bien. Son livre s'appelle Chant contre chant. C'est une étude à partir de Nanni Moretti. C'est très très bien fait. C'est chez Marest. C'est un petit livre, mais qui donne envie beaucoup de revoir de nombreux films.
Et Marest, voilà. Un très bel éditeur aussi.
Nous le soulignons comme vous. Pour vous, Benjamin Fogel, on va vous donner du Fellini à lire et à relire, mais surtout le regard de Dominique Delouche. Fellini, 6 ans avec le maestro. C'est au joli éditeur de cinéma, là aussi, La Tour Verte, un de vos beaux collègues et confrères. Voilà, c'est pour vous cet ouvrage sur et autour de Fellini. Et puis pour vous, Thierry Lounas, comme vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimiez la fiction, eh bien on va vous en donner, et c'est de la belle fiction, et ça pourrait même faire l'objet d'un film. C'est notre collègue François-Guillaume Lorrain qui sort un récit qui s'appelle « Vous êtes de la famille » à la recherche de Jean Kopitovitch. Ce Jean Kopitovitch a été tué par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris, et il part à sa trace, c'est chez Flammarion, c'est un très beau récit.